France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Entendez-vous l'écho. L'émission du jour a été programmée et préparée par Diane de Vancel et réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Ruben Carmazine. Alors pour ce dernier épisode de notre série consacrée au cinéma vu par l'économie, nous revenons aux fondamentaux et en l'occurrence à une contradiction fondamentale qui a animé philosophes, économistes et politiques. Le cinéma, comme les arts de façon générale, doit-il être considéré comme une industrie ou bien au contraire la créativité ne saurait être contrainte par les lois de l'offre et de la demande? Est-il seulement possible d'attribuer une valeur monétaire à une œuvre? En somme, peut-on mettre l'imaginaire au travail? Tous ces paradoxes sont résumés dans un concept, lui-même contradictoire, et auquel nous allons consacrer l'heure qui vient, celui d'industrie culturelle.
Les marchandises culturelles de l'industrie se règlent sur le principe de leur commercialisation et non sur leur propre contenu de sa construction exacte. La praxis entière de l'industrie culturelle applique carrément la motivation du profit aux produits autonomes de l'esprit.
Eh bien, c'est ce qui est pointé par Adorno et Horkheimer en 1944, lorsqu'ils soutiennent que les industries culturelles, ce qu'ils vont appeler les industries des biens culturels, sont en train de produire ce qu'ils appellent une nouvelle forme de barbarie. Et en particulier, ils soutiennent que, à travers ces industries culturelles, la raison se transforme en rationalisation. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est la réduction de la raison au calcul, à la calculabilité.
On pourrait commencer par dire que c'était un petit peu, effectivement, osé, surprenant de la part d'un ministre de la culture socialiste, d'un gouvernement socialiste et communiste, de réhabiliter les industries culturelles et de réconcilier, ou de vouloir réconcilier l'économie et la culture. La France du début des années 80 affronte le chômage de masse et une crise économique sévère. Et donc, la culture peut apparaître comme une des solutions possibles à cette crise. Et en tout cas, c'est un argument qui est mis en avant par le ministère de la Culture pour défendre son budget. Le slogan « Économie et culture, même combat » est un slogan qui va être utilisé durant les années 80 et même un peu au-delà.
À l'époque, le marché du film était dans les sous-sols du palais. C'était pas du tout un très très grand marché. Et puis j'ai eu la chance à ce moment-là, c'est Pierre Viau, le président du Festival de Cannes, qui m'a donné carte blanche pour vraiment le redévelopper, puisqu'il y avait une prise de conscience à ce moment-là, c'est le concept des industries culturelles, qu'en fait le festival devait aussi s'appuyer sur son versant économique. Et donc ça a été le début de cette belle aventure qui a amené le marché à ce qu'il est aujourd'hui.
Thomas Paris, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, chercheur au CNRS et professeur associé à HEC. Vous êtes le co-auteur avec Philippe Champy de L'économie du cinéma, paru à La Découverte, mais aussi d'un ouvrage intitulé Manager la créativité, innover en s'inspirant de Pixar, Ducasse, les ateliers Jean Nouvel, Hermès, paru chez Pearson. Alors hier s'est ouverte la 78e édition du Festival de Cannes, raison pour laquelle nous nous penchons cette semaine d'Entendez-vous l'écho sur le 7e art aussi en tant qu'industrie. Je voulais rebondir sur les derniers propos qu'on entendait à l'instant. C'est Jérôme Paillard qui s'exprimait au micro de Marguerite Caton sur France Culture. Jérôme Paillard est l'un des fondateurs du marché du film à Cannes et il le dit, assumer finalement le concept d'industrie culturelle, c'est faire en sorte que le festival puisse s'appuyer sur son versant économique. Est-ce que c'est ainsi qu'on pourrait effectivement résumer cette notion d'industrie culturelle ?
Alors, il y a plusieurs manières de la présenter et de l'assumer, mais effectivement, la manière dont vous la présentez est très très juste. C'est-à-dire que quand on regarde le festival de Cannes qui s'est ouvert hier, il y a deux versants. Il y a le versant artistique avec la compétition qui a été mise en scène hier par la cérémonie d'ouverture. Et puis, il y a ce marché du film où des droits se vendent, s'échangent. Alors, la dimension industrielle, elle renvoie à plusieurs éléments. Ça peut être cette dimension économique. Avant tout, dans le vocabulaire français, les industries culturelles, ça a été cette notion de reproduction. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs culturels qui impliquent une reproduction qui peut être sous forme de produits manufacturés comme des livres ou une reproduction qui peut se faire sous la forme de d'ondes et comme la télévision. Et ces secteurs de la culture qui s'appuient sur une reproduction reposent sur une économie particulière, mais il y a véritablement une économie, comme dans n'importe quel autre secteur culturel, puisque tout secteur culturel, et comme tout secteur, doit s'appuyer sur un certain nombre de ressources. Cette économie-là est sans doute un peu plus capitalistique, parce que on a besoin de salles de cinéma, on a besoin de distributeurs, on a besoin d'un certain nombre de personnes à faire vivre.
Et donc on voit qu'il y a toute une chaîne aussi qui s'organise, qui se transforme aussi en fonction de ces impératifs économiques-là. On comprend aussi à travers cette notion très importante de la reproduction, qu'on comprend que le 7e art soit particulièrement concerné, mais effectivement ça concerne un très grand nombre de domaines. Joël Farchi, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes avec nous à distance, je le précise, depuis les studios de la RTBF à Bruxelles, grâce à Vincent Venet qui assure la liaison, et je l'en remercie très chaleureusement. Joël Farchi, vous êtes également économiste, professeur à Paris 1, directrice de la chaire Pluralisme culturel et éthique du numérique. Vous êtes une grande spécialiste des industries culturelles et du numérique, donc, et vous avez fait paraître il y a 2 ans un ouvrage, Le cinéma n'est plus ce qu'il était, mutation d'une industrie de l'imaginaire. C'était aux Presses des Mines. Alors il n'y a pas que le cinéma dans la vie, il faut quand même le préciser. Quel domaine relève de l'industrie culturelle? Est-ce que tous les champs culturels, tous les arts en soi sont concernés?
Alors d'abord, effectivement, par rapport à ce que disait Thomas Paris à l'instant, c'est vrai qu'on a beaucoup opposé les industries culturelles en tant que production d'œuvres reproductibles, et puis le reste, c'est-à-dire le spectacle vivant, le marché de l'art, etc. Mais il faut pas oublier qu'en fait, tout est reproductible et à la fois rien ne l'est. C'est-à-dire que quand vous dites que c'est reproductible, c'est toujours le support qui est reproductible. Un livre, ce qui est reproductible, c'est le papier. Mais le contenu, il faut bien différencier le contenu et le contenant. Le contenu, il n'est jamais reproductible, c'est justement un prototype. Et c'est là que se fait en fait la différence entre les industries, ce qu'on appelle les industries culturelles et les autres industries. Et moi, je suis toujours mal à l'aise d'opposer industrie et culture. Parce que, en fait, c'est une industrie particulière. Ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle a des phases qui sont des phases de production, de distribution, de commercialisation, dans tous les domaines créatifs, qui sont exactement les mêmes partout, par ailleurs, dans d'autres industries. Ce qui fait la spécificité des industries culturelles, c'est justement l'aspect prototype, c'est-à-dire l'aspect créatif en amont. Mais le créateur tout seul, aucun créateur, aucun auteur ne veut ne pas vendre ses livres ou ne pas être visible. Donc mais évidemment, moi j'ai un point de vue d'économiste. Donc en tant qu'économiste, je ne vois pas de contradiction, mais simplement une industrie où le prototype ou la création joue un rôle tout à fait central.
Thomas Paris, il y a donc cette notion de reproduction qui est très importante, et puis il y a cette distinction que faisait à l'instant Joël Farchi entre l'œuvre en elle-même et puis son support, et donc a fortiori sa diffusion. Est-ce que de ce point de vue-là, on peut distinguer ce qui rentrerait ou pas dans le giron d'une industrie culturelle? Est-ce qu'on, je pense par exemple au spectacle vivant, où là la reproductibilité est quand même largement moindre, on va dire. Est-ce que ça exclut de fait le spectacle vivant des industries culturelles? Est-ce que tout ce qui a vocation à n'apparaître qu'une seule fois ou à être exceptionnel, événementiel, ne rentre pas dans cette catégorie d'industrie culturelle?
Alors, sans rentrer dans des éléments trop techniques, dès lors qu'il y a reproduction, et donc il y a cette industrie au sens qu'on lui a donné en France, on a une direction du ministère de la Culture qui s'appelle la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles, et qui englobe les médias, donc la presse notamment, et puis le livre, le cinéma, la musique enregistrée. Cette caractéristique de la reproduction va amener des contraintes et des caractéristiques économiques très très particulières. Notamment le coût de production, c'est un peu ce que disait Joël avec d'autres termes, le coût de production du prototype est très très important. Faire un film coûte en France en moyenne 5 millions d'euros, aux États-Unis c'est beaucoup plus. Le coût de reproduction, c'est-à-dire le fait de pouvoir permettre à un nouveau spectateur de voir le film, coûte quasiment rien. Et ces éléments-là vont donner lieu à une économie très très singulière, avec des difficultés, avec des particularités, qui va être très différente de l'économie du spectacle vivant, par exemple.
D'où Thomas Paris, c'est l'idée qu'il faille peut-être introduire une autre notion, celle de rentabilité. Est-ce que l'idée de multiplier les supports, multiplier la diffusion, permet de rentrer justement dans les frais que vous évoquiez, de la production du prototype, comme vous le disiez? Est-ce que c'est ça qui caractérise aussi une industrie culturelle?
Alors, tout secteur, bon, après, en France, on a une tradition d'intervention publique qui est très très forte, et avec des secteurs qui sont plus subventionnés que d'autres, mais tout secteur doit trouver son économie. Qu'elle soit à base de subvention ou sans subvention, elle doit trouver son économie. Le fait, effectivement, de cette reproduction permet de trouver une économie un peu particulière. Ça veut dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que on va définir le coût du produit, donc un film en l'occurrence, à partir du marché potentiel. C'est-à-dire que les choses s'inversent. Et ce qui se traduit par le fait qu'aujourd'hui, les films sont faits, notamment à Hollywood, pour un marché global. Et donc, les coûts de production ont explosé de ce fait. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'inversion qui est faite par rapport à l'économie des biens manufacturés, où on a un coût de production qui est donné, et à partir de là, on va essayer de le vendre à un prix donné. Là, c'est les choses se rendent dans une logique complètement inverse. Donc, oui, les biens culturels, les industries culturelles doivent trouver une économie, mais comme à peu près tous les biens. Voilà, simplement, dans ces industries-là, potentiellement, on a la capacité, c'est ce que disait Jean-Marie Messier en 2002, à vivre dans une économie de marché. Bon, ce qui soulève d'autres questions sur lesquelles on reviendra peut-être tout à l'heure. C'est-à-dire, techniquement, on peut tout à fait avoir une industrie du livre, du cinéma, de la musique enregistrée, qui vivent sans intervention publique.
Le caractère, on va dire, de la reproduction potentielle de ces œuvres et donc l'idée aussi de pouvoir trouver une économie, un marché, de trouver un modèle de fonctionnement est donc au centre de cette notion d'industrie culturelle, une notion qui, je le disais, a animé pas que les économistes mais aussi les philosophes et là, pour le coup, d'un point de vue plutôt critique puisque reproduire et rentabiliser ne rentrent pas forcément non plus dans leur giron. Ce sont deux aspects que le philosophe Théodore Adorno avait en tête lorsqu'il proposait justement sa définition de l'industrie culturelle dans l'émission Heures de culture française en 1963.
Il semble bien que le terme d'industrie culturelle ait été employé pour la première fois dans le livre Dialectique der Aufklärung que Horkheimer et moi avons publié en 1947 à Amsterdam. Dans nos ébauches, il était question de culture de masse. Nous avons abandonné cette dernière expression pour la remplacer par industrie culturelle afin d'exclure de prime abord l'interprétation qui plaît aux avocats de la chose. Ceux-ci prétendent en effet qu'il s'agit de quelque chose comme une culture jaillissant spontanément des masses mêmes, en somme de la forme actuelle de l'art populaire. Or, de cet art, l'industrie culturelle se distingue par principe. Dans toutes ses branches, on confectionne plus ou moins selon un plan de produits qui sont étudiés pour la consommation des masses et qui déterminent par eux-mêmes, dans une large mesure, cette consommation. Les diverses branches se ressemblent de par leur structure ou du moins s'emboîtent les unes dans les autres. Elles s'additionnent presque sans lacune pour constituer un système. Cela grâce aussi bien aux moyens actuels de la technique qu'à la concentration économique et administrative. L'industrie culturelle, c'est l'intégration délibérée d'en haut de ses consommateurs. Elle intègre de force même les domaines séparés depuis des millénaires de l'art supérieur et de l'art inférieur, au préjudice des deux.
Joël Farchi, on entend là une dimension très critique hein, de la part d'Adorno. Il le dit un tout petit peu plus loin, la praxis entière de l'industrie culturelle applique carrément la motivation du profit aux produits autonomes de l'esprit. Là, on arrive au cœur finalement de cette notion, de la controverse aussi qui va avec cette notion, l'idée que marché ou en tout cas profit serait incompatible avec art et donc potentiellement créativité. On entend bien ça dans produits autonomes de l'esprit. Vous l'avez dit en tant qu'économiste, vous, ça ne vous semble pas nécessairement contradictoire, mais qu'est-ce qui explique que les choses se soient crispées à ce point autour de cette contradiction ?
Mais peut-être qu'en fait, il faut distinguer, en vous écoutant depuis tout à l'heure, je me dis qu'il faut peut-être distinguer trois niveaux très différents. Il y a l'aspect reproductibilité versus spectacle vivant dont on a parlé tout à l'heure, qui entraîne des logiques économiques que Thomas a expliquées différentes. Il y a un autre aspect qui est celui dont parle Adorno dans l'extrait que vous avez passé là, qui en fait, en quelque sorte, si je résume avec mes mots, ce qu'il dit, c'est qu'il oppose le marketing versus l'art, c'est-à-dire il oppose une logique d'offre versus une logique de demande. Ce qu'il dit en fait, c'est que dans l'art, tel qu'il l'a défini lui, c'est tout doit émaner du créateur et la demande vient après. Alors que dans ce qu'il appelle, la manière dont je comprends les choses, c'est que la manière dont il, ce qu'il appelle industrie culturelle, c'est la demande qui forge l'offre. Donc je pense que ça, c'est ça qui fait qu'effectivement, on remet en cause la capacité d'un créateur à faire vivre quelque chose qui est issu de son cerveau au lieu de le faire de simplement de répondre à ce qu'il appelle les masses. Et puis il y a un troisième élément qui est ce que je disais tout au début, qui est l'insertion d'une industrie, d'un spectacle vivant dans un marché, c'est-à-dire une logique de rentabilité. Et là, effectivement, toutes les industries culturelles, qu'elles soient reproductibles ou pas reproductibles, enfin reproductibles version ministère de la culture ou pas reproductibles, elles s'inscrivent dans un marché parce que les œuvres doivent être vendues. Et donc je pense qu'il faut peut-être distinguer ces trois logiques là qui s'interpénètrent en fait.
Thomas Paris, vous souhaitiez réagir et il faut peut-être bien insister effectivement sur ces trois dimensions assez différentes l'une de l'autre, même si les logiques finalement se recoupent. Et peut-être insister aussi avec Adorno sur la différence entre industrie culturelle et culture de masse. On aurait peut-être tendance à les confondre du fait de ce caractère reproductible aussi des œuvres.
Oui, et moi je voudrais m'attarder sur le deuxième niveau que Joël a souligné, qui est celui de l'art qui émanerait d'auteurs versus l'art qui émanerait du marketing. Et là, je pense qu'Adorno touchait quelque chose de très 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 juste et sur lequel je vais revenir. Mais
oui, quand il parlait de produits étudiés pour la consommation, c'est
voilà,
ce qu'il
dit. Voilà, c'est ça. Mais par contre, le rapprochement est un peu rapide. C'est-à-dire que hier, Robert De Niro a reçu une palme d'honneur au Festival de Cannes. On a rappelé quelques éléments de sa filmographie, dont le merveilleux « Il était une fois en Amérique », qui a été une catastrophe industrielle. C'est-à-dire, « Il était une fois en Amérique » n'a pas marché. Et il n'a pas marché, il ne répondait pas à une demande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu cette tentation ou cette tendance assez naturelle des producteurs du réalisateur Sergio Leone d'aller essayer de toucher une demande. Néanmoins, avec le temps, le film s'est imposé et est devenu un chef-d'œuvre du cinéma. Van Gogh, on n'est pas dans les industries culturelles, a vendu un tableau de son vivant. Donc, il ne répondait pas non plus à une demande. En fait, ce qu'il y a de très intéressant derrière ce que dit Adorno, c'est que n'importe quelle activité liée à la création, et on pourrait parler d'industrie créative, hein, puisque c'est le vocable qui s'impose aujourd'hui, dans n'importe quel secteur lié à la création, il y a à la fois une espèce de nécessité d'aller proposer de la nouveauté, de se démarquer, et c'est ça qui va être le moteur du dynamisme de tous les secteurs de la culture et de la création. Et en parallèle, et du fait du poids des organisations, on va avoir cette tendance assez naturelle à la reproduction, non pas au sens où j'évoquais tout à l'heure, mais au fait d'aller essayer de refaire ce qu'on a toujours fait et de minimiser les risques. Quand on sort Star Wars numéro 12, 13, je sais pas combien on est, on est vraiment dans cette logique où on assume d'être dans une industrie culturelle où on est censé apporter de la nouveauté, mais le poids de l'organisation, et à tous les niveaux, dans toute la chaîne de valeur, va nous ramener finalement à refaire des choses qu'on a toujours faites. Et donc cette capacité des organisations, de certaines organisations, à sortir un petit peu de cette logique-là, est assez remarquable. C'est un peu ça que j'étudiais dans le livre que vous avez cité, mais est assez compliqué. Mais néanmoins, ça existe. C'est-à-dire qu'on a des industries qui poussent à refaire un peu toujours la même chose. Néanmoins, parfois, des individus et des organisations arrivent à sortir du lot pour proposer de la nouveauté.
Et en fait, c'est sur cet équilibre-là que toute l'émission, je le dis, va être construite, sur cette idée de comment on arrive à ménager chèvre et chou, à ménager cette idée de ne prendre le moins de risques possible parce qu'on sait que les choses marchent, on sait que les choses fonctionnent et en même temps, essayer d'impulser cette innovation, cette créativité aussi et permettre à certains individus de faire preuve de créativité. Ce qui est intéressant, Joël Farchi, c'est que à travers vos propos à tous les deux, on comprend qu'il existe de fait un marché, quelque part. Il y a de toute façon, quelque part, une demande, de toute façon, une offre. La façon dont elles se rencontrent peut fluctuer. Alors, la demande est moins facilement identifiable, et on va y revenir. Mais il y a un autre paradoxe que je voulais soulever avec vous, Joël Farchi, c'est que pendant très longtemps, la théorie économique, elle opte plutôt pour une mise à distance de cet objet que serait la culture ou l'art. Ça ne rentre pas vraiment dans la vision, on va dire, de grands théoriciens, mais on pourrait citer Adam Smith, Ricardo, etc. Il y a une forme de mise à distance. Comment l'expliquer ? Comment expliquer que les économistes, de façon générale, aient un peu de mal à se saisir de cet objet-là ?
Alors, les économistes, de façon générale, non, mais les économistes du XVIIe siècle, oui. Alors, oui, ce qui est effectivement extrêmement intéressant quand on lit les premiers économistes politiques, vous citiez Smith, Ricardo, même chez Marx, c'est des passages extrêmement intéressants sur la culture, c'est qu'en fait, ils développent tous des lois économiques, et puis ensuite, ils disent, mais il y a une exception à ces lois économiques, c'est la culture. Et ça a fait sans doute beaucoup de mal au secteur culturel. Parce que ça a duré des origines de l'économie politique jusqu'à, je dirais, le point de bascule, ça a été 1966, un ouvrage de Baumol et Bowen qui s'appelle Performing Arts, The Economic Dilemma, et qui est sur le spectacle vivant, et il explique que structurellement, le spectacle vivant ne crée pas de gains de productivité et donc doit être subventionné. Et donc, il y a l'idée avec ce bouquin de 66 que, en fait, la culture, sans mauvais jeu de mots, c'est une sorte de danseuse qui doit être subventionnée par les autres secteurs de l'économie. Et pourquoi je dis que ça fait beaucoup de mal? Parce que c'est exactement ça qui a remis en cause, en fait, toute la politique des années 80 et la notion de marché, d'économie et culture. On va réconcilier économie et culture. C'est de dire, la culture, c'est aussi un secteur rentable qui crée de l'emploi, qui crée une part de la valeur ajoutée, etc. Alors, il ne faudrait pas non plus... Il ne faut pas aller d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que... Non, la culture, c'est pas forcément subventionné, mais il faut pas non plus vouloir tout mesurer en termes de secteur culturel à l'aune du PIB, parce que on pourrait dire à ce moment-là, d'autres activités pourraient être plus rentables, pourraient créer plus d'emplois, etc. Donc, il y a vraiment une bascule. L'ouvrage de 66, c'est vraiment le summum de la culture doit être subventionnée. C'est uniquement en termes d'économie publique qu'on pense la culture. Et puis dans les années 80 en France, il va y avoir vraiment des travaux qui vont dire c'est un secteur économique à part entière.
Alors là, Joël Farchi, vous me fournissez une transition toute trouvée vers ces années 80, et pour bien comprendre finalement à quoi sert aussi d'employer cette notion même d'industrie culturelle, d'identifier certains secteurs comme appartenant à cette industrie culturelle, je vous propose d'écouter Jack Lang, c'était en 1983 sur France Inter.
La culture et l'économie sont-elles compatibles? Il y a quelques années, le rapprochement des deux mots aurait fait dresser les cheveux sur la tête à plus d'un responsable, culturel ou politique. C'est au juste s'il ne fallait pas choisir entre la sébille et le cocktail Molotov, pour reprendre une formule célèbre. Choisir entre l'art pour l'art, détaché des réalités, et la culture de supermarché. Aujourd'hui, l'économie envahit tout, et le ministre délégué à la culture parle d'industrie culturelle. Il est vrai que les Français... dépensent de plus en plus d'argent pour leurs activités culturelles. C'est même dans ce secteur que leurs dépenses augmentent le plus rapidement, juste après les dépenses de santé. D'où l'idée d'investir, de développer nos industries culturelles pour mieux les armer face à la concurrence internationale, qu'il s'agisse du cinéma, de la musique, du livre, de la photo ou des métiers d'art, pour ne pas parler de la vidéo. Jacques Lang a donc annoncé hier la création d'un institut français de financement du cinéma et des industries culturelles, un organisme qui permettra à ceux qui veulent entreprendre de bénéficier de crédits bancaires. Le ministre veut également aider les industries de programme pour être sur la ligne de départ à la veille de la grande bataille des satellites de communication. C'est en tout cas l'avis de Jacques Lang au micro de François Lucaso.
Il y a là un immense marché. Vont se multiplier les réseaux câblés en France à travers le monde. Ces réseaux câblés ont besoin de programmes audiovisuels. Il faut donc les fabriquer. Il faut donc investir dans ces programmes dès maintenant. Et c'est pour notre pays la possibilité de se constituer une vraie branche industrielle nouvelle, l'industrie des programmes et de la culture. Et comme nous disposons d'un patrimoine artistique très riche, qui peut alimenter ces futures industries et ces futurs programmes, ça veut dire qu'un pays comme la France, si elle veut construire l'avenir, elle doit dès maintenant investir dans les industries de la culture qui, de marginales qu'elles ont été, deviennent aujourd'hui centrales. La puissance publique vient ici pour établir, je dirais, des relais et des médiations entre les entreprises privées de production culturelle et les banques et l'administration. Pour faciliter leur travail, si vous voulez.
Au cours des 5 prochaines années, 21 milliards de francs seront consacrés au développement des industries culturelles.
Joël Farchi, on a là effectivement la réponse à cette vaste question de savoir au fond à quoi sert cette appellation d'industrie culturelle. En fait, on le comprend, c'est une sorte d'outil dans le sens où il permet de mettre sur pied des institutions capables de soutenir la culture d'un point de vue économique, à l'instar de l'Institut du financement du cinéma et des industries culturelles fondé en 1983. Finalement, c'est une forme de prise de conscience, c'est l'idée de mettre à plat l'idée que oui, il y a des besoins de financement notamment, on va faciliter les choses.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y avait, quand je disais tout à l'heure, le fait de marginaliser la culture, ça a fait beaucoup de mal à la culture, parce que on a fait comme si l'argent dans la culture, c'était sale. Or, je ne connais pas un peintre qui n'a pas envie de vendre des tableaux, un réalisateur qui n'a pas envie de faire des entrées dans les salles, un écrivain qui n'a pas envie de vendre des livres. Tout à l'heure, Thomas parlait de Van Gogh. Van Gogh, il n'était pas ravi d'avoir vendu un tableau dans sa vie. Donc, et pour ça, l'industrie, elle doit être au service. C'est peut-être ça qui fait la différence entre une industrie culturelle, je dirais, vertueuse et une industrie culturelle moins vertueuse. L'industrie culturelle, quand le marché, quand l'industrie est là pour soutenir la créativité, bah, ça me semble pas un problème. Par contre, quand elle est là, effectivement, pour imposer la loi de la demande de masse, là, c'est plus problématique. Mais sinon, il n'y a pas de contradiction à partir du moment où vous dites que l'industrie doit être au service des auteurs, des créateurs, Thomas, les accompagner.
Thomas Paris, ce qu'on entend là, c'est qu'il y a une forme de prise de conscience, de rapprochement aussi entre une forme de théorie, une forme de pratique. Mais je voudrais quand même bien comprendre pourquoi finalement cette logique de mise à distance a fini par se dissoudre. On a parlé de Baumol et de son ouvrage de 1966. D'un point de vue théorique, est-ce que on a quand même une forme de là encore de mise à plat, une façon d'assumer aussi ce terme d'industrie culturelle? Et est-ce que tout cela part vraiment de France, sachant qu'il y a une politique très spécifique à la France sur laquelle on va revenir, mais pourquoi finalement tout d'un coup il y a cette espèce de mise à distance qui s'efface progressivement ?
Je ne suis pas complètement convaincu qu'elle s'efface. Alors, on parle depuis des années en France d'une notion qui s'appelle l'exception culturelle. On ne sait pas bien ce que ça veut dire, mais par contre, elle est mise en avant à peu près dès lors que qui que ce soit veut essayer de faire bouger les lignes. Et donc, c'est quand même l'idée, et ce que disait tout à l'heure Joël, que la culture fait exception aux lois économiques classiques. En France, c'est plutôt utilisé comme étant... on assume d'avoir une politique culturelle particulière. Pourquoi ce... Cet effacement, je reviens un tout petit peu sur la notion d'industrie créative qui me semble assez importante, qui est arrivée au tournant des années 2000 et qui est arrivée par deux voies différentes. La première, ça a été, il n'y a pas de hiérarchie dans ce que je dis là, la première, ça a été un économiste américain qui s'appelait Richard Caves, qui était un économiste qui s'intéressait à toutes les industries, pas en particulier ces secteurs-là, et puis qui, un jour, est tombé sur ces secteurs qui étaient le parfum, le spectacle vivant, le cinéma, le jeu vidéo. Et il s'est dit, c'est quand même des secteurs, industrie, on l'entend au sens anglo-saxon, c'est un secteur économique. Ce sont quand même des secteurs qui ont des modes de fonctionnement très, très singuliers. Très singuliers parce qu'ils s'appuient sur un objet très, très particulier qui s'appelle le talent, des individus considérés comme ayant une capacité hors du commun, un risque absolu, ce qu'il appelle la propriété de « nobody knows », personne ne sait, etc. Je ne vais pas toutes les lister, mais il a identifié un certain nombre d'industries, de secteurs, qui partageaient un certain nombre de caractéristiques. Et la conclusion de Richard Case, c'était de dire « ces secteurs-là qu'on va regrouper sous le vocable « industrie créative » en anglais », donc c'est aussi à ça que tient l'espèce de malentendu qu'il y a pu avoir, ça voulait simplement dire les secteurs de la création, reposent sur des modalités de fonctionnement économique un peu singulières. Le deuxième mouvement qui arrive à peu près au même moment, c'est le gouvernement australien fin des années 90, qui s'est rendu compte que l'ensemble de ces secteurs que Caves avait appelé les industries créatives représentaient un poids économique non négligeable quand on les agrégeait. Et dedans, on mettait la mode, la publicité, l'architecture. Et peut-être un potentiel intéressant quand on allait passer dans une économie nouvelle pour les pays occidentaux, sachant qu'on allait être concurrencé de plus en plus par les pays à bas coût sur tout ce qui était manufacture. Donc ces industries sont devenues, ces secteurs, pardon, sont devenus des secteurs potentiellement d'avenir pour nos pays. Le Royaume-Uni s'en est saisi et a eu une politique très très ambitieuse et s'est rendu compte que quand on comptabilisait l'ensemble de ces secteurs économiques, ça représentait le deuxième secteur. C'était très artificiel, hein. On décide de mettre ensemble le cinéma et la mode et en additionnant, on se rend compte que ça pèse plus que tous les secteurs à part la finance. Et donc il y a eu cette espèce d'engouement qui a été porté par plusieurs rapports au niveau européen, au niveau français, pour ces secteurs qui potentiellement allaient peut-être des secteurs salvateurs pour l'économie. Et cette espèce d'effacement s'est joué à peu près là, c'est-à-dire qu'en France, on a basculé d'une approche les pouvoirs publics, hein, d'une approche dans laquelle il fallait soutenir la culture parce que c'était la culture, à une approche, bah, finalement, peut-être que ces secteurs ont un vrai potentiel économique. Et là, on est rentré dans une espèce de flou artistique pendant quelques années où on ne savait plus trop pourquoi on les soutenait. Et on s'est mis aussi à les soutenir parce que du fait de cette espèce de potentiel, et on a parlé de retombées. C'est un peu retombé, cette histoire des retombées, mais pendant quelques années, on a beaucoup parlé de retombées, les retombées économiques de la culture.
Joël Farchi, ça nous aide aussi à comprendre la temporalité française, pour le coup. Alors, j'ai cru comprendre à travers les propos de Thomas Paris qu'il y avait un petit problème de traduction, ou en tout cas d'interprétation de la vision anglo-saxonne. Mais ce qui se passe dans les années 80, et on l'entendait aussi dans un extrait sonore au tout début de l'émission, c'est vraiment cette idée que potentiellement, l'industrie culturelle, la culture donc, peut servir de relais de croissance, peut générer des emplois, peut effectivement représenter un secteur dynamique en soi. Est-ce que c'est ça qui, au début des années 80, motive aussi la création des institutions, comme on le mentionnait à l'instant ?
Oui, bien sûr, c'est vu non plus comme quelque chose qui fait perdre de l'argent dans l'économie, mais comme quelque chose qui peut être un relais de croissance comme un autre. Mais je voudrais compléter avec ce qu'on a évoqué à l'instant sur l'exception culturelle, parce que c'est extrêmement...
Allons-y, oui, c'est important.
C'est extrêmement important parce que, effectivement, Thomas disait, en France, on l'utilise un peu à tort et à travers, mais en fait, ça veut dire quelque chose de très précis. Et l'exception culturelle, c'est pas l'exception française, ça veut pas dire que la France est différente des autres, ça veut dire que la culture, justement, et on revient à votre question, la culture est une marchandise, entre guillemets, différente des autres marchandises. Et pourquoi est-ce qu'elle est différente? Justement parce qu'il y a cet aspect prototype, justement parce qu'il y a cet aspect talent, justement parce qu'il y a cet aspect création qui est tout à fait particulier. Et donc, ce qu'on appelle l'exception culturelle, en fait, c'est un accord de libre-échange qui a été négocié dans le cadre du GATT dans les années 90, qui est le GATT qui était, comme vous le savez, l'ancêtre de l'OMC. Et donc, qu'est-ce qu'il disait cet accord? Il disait, il faut faire du libre-échange. Alors, effectivement, maintenant, c'est un peu atypique, mais je vais y revenir. Il faut faire du libre-échange parce que c'est bon pour les économies, pour tous les secteurs. Mais par contre, entre les pays, la culture va être considérée comme quelque chose sur lequel il faut mettre en place des mesures protectionnistes. Pourquoi il faut mettre en place des mesures protectionnistes? Justement parce que le libre-échange, ça conduirait notamment à faire en sorte que les cultures dominantes écrasent Hollywood, pour ne pas le citer, écrasent les cultures minoritaires. Et ce qui est très intéressant, je trouve, par rapport à ce débat sur l'exception culturelle, c'est ce qui est en train de se passer... De se passer avec Trump quand il dit justement qu'il veut remettre en cause, il parle de concurrence déloyale que feraient les industries européennes parce que elles développent des formes de protectionnisme. C'est vrai, mais remettre en cause ça, c'est remettre en cause l'exception culturelle et c'est remettre en cause en fait une espèce de... Il parle de concurrence déloyale. Donc c'est vrai, l'exception culturelle, c'est par définition une concurrence déloyale. Mais pourquoi c'est une forme de concurrence déloyale? Parce qu'on a estimé que c'était bon pour la culture, cette forme de concurrence déloyale. Et entre les États-Unis et les Européens, s'est mis en place une espèce de deal un peu comme ça, en disant, en fait... Les Européens laissent entrer les films américains sans mettre des barrières protectionnistes en termes de quotas comme le fait la Chine aujourd'hui ou en termes de barrières tarifaires. Donc tous les films américains peuvent rentrer en France comme ils veulent sans barrière. Mais par contre, vous nous laissez l'exception culturelle, c'est-à-dire vous nous laissez la possibilité, nous, d'imposer des formes de protectionnisme qui ne seront pas des formes de protectionnisme tarifaire, qui ne seront pas des quotas, mais qui sont des formes de soutien à cette industrie. Et donc remettre en cause, et donc ça c'est quelque chose qui existe depuis la création du CNC, depuis la Seconde Guerre mondiale en fait, cette idée que oui, on taxe les produits américains, les films américains, pour qu'ils viennent subventionner les films français. Et remettre en cause ça, c'est aussi pour Trump très dangereux, enfin ça serait très dangereux, parce que s'il remet en cause ça, l'exception culturelle, les Européens peuvent dire, mais alors nous, on ne laisse plus rentrer les films américains comme on le faisait jusqu'à présent. Donc, ce n'est pas forcément très, très positif pour les États-Unis de remettre en cause cette espèce d'accord tacite.
Un accord qui est remis en cause depuis le 2 mai, où Donald Trump a effectivement fait cette annonce, enfin cette menace en tout cas, de taxer à 100% les films produits en dehors des États-Unis, mais de fait importés sur le territoire américain, en tout cas diffusés sur le territoire américain. Thomas Paris, vous souhaitiez réagir?
Oui, je voudrais ajouter deux éléments à ce que vient de dire Joël. Le premier, c'est qu'en toile de fond aussi de tout ça, et depuis très très longtemps, il y a cette histoire de soft power.
Les enjeux de souveraineté.
Qui derrière a des répercussions aussi économiques. C'est dans les années 1910, je crois, qu'un sénateur américain a déclaré au Sénat « Trade follows films ». Vendons nos films à l'international et derrière, on vendra nos jeans et nos cigarettes. Et le deuxième élément, pour compléter ce que disait Joël et puis revenir sur l'intervention de Jack Lang. La notion d'industrie renvoie aussi à la notion d'outil. C'est-à-dire que pour que des créateurs puissent s'exprimer, et c'est un enjeu, c'est-à-dire qu'un des enjeux en toile de fond de tout ça, et notamment dans les négociations autour du GATT, c'était de dire un peuple doit avoir les moyens d'exprimer ses propres imaginaires. Et si on ne fait rien, comme l'a rappelé Joël, ben c'est tout l'ensemble de l'industrie mondiale qui va se concentrer dans un territoire donné, en l'occurrence aux États-Unis et à Hollywood, sur quelques centaines de kilomètres carrés. Et donc on a besoin forcément de lutter contre cette espèce de concentration naturelle. Et donc il faut entretenir une industrie égale un outil. Et donc les mesures qu'a mis en place Jack Lang, celle-ci parmi d'autres, hein, les mesures qu'a évoqué Joël aussi, qui ont été mises en place par le Centre national de la cinématographie, le CNC, sont des mesures pour entretenir un outil de production qui permette à des créateurs, réalisateurs, réalisatrices de s'exprimer. Et ce qu'on a réussi à faire en France avec cette dimension industrielle, c'est Malraux qui disait c'est aussi une industrie, hein, enfin, le cinéma n'est pas seulement un art, on marche vraiment sur les deux jambes, c'est aussi l'idée d'avoir cet outil entre les mains. Sinon, s'il n'y a plus d'outils, vous pouvez avoir des tas de gens très très intéressants qui ont plein d'envie de cinéma et qui ne pourront pas le faire et qui devront partir aux États-Unis pour le faire et qui feront des films américains ou des films remoulinés à la moulinette américaine. Et voilà aussi ce que c'est que cette industrie, simplement le fait qu'on ait un outil de production existant sur notre territoire.
France Culture, entendez-vous l'écho. Alia Tovine.
Thomas Paris, vous l'avez dit, il y a des enjeux de soft power, des enjeux de souveraineté, le droit des peuples à tout simplement produire et diffuser, quelque part, leur imaginaire aussi. Je voudrais vraiment revenir sur les raisons qui justifient, qui légitimisent aussi l'intervention publique, parce qu'on a l'impression que industrie culturelle, et vous le disiez avec ces trois niveaux d'analyse différents, industrie culturelle rime avec mise sur le marché des œuvres, de la créativité et donc de l'imaginaire. Or, la réalité elle est beaucoup plus contrastée que cela. On l'a dit, puisqu'il y a une très forte intervention des pouvoirs publics, il y a une autre raison pour laquelle les pouvoirs publics interviennent. C'est aussi parce que, d'un point de vue très théorique, ce marché-là, ce soi-disant marché de la culture, il est perçu comme profondément défaillant. Et là, c'est lié à quelque chose d'assez théorique, encore une fois, mais qui est nécessaire, il faut le comprendre, qui est lié à la façon dont on produit de la valeur, finalement, sur ce marché-là. Or, vous avez commencé à l'aborder, la valeur, elle ne naît pas d'une rencontre, de l'offre et de la demande, elle naît de tout un écosystème, tout un système social aussi, qui fait qu'on ne saura jamais vraiment si un produit va fonctionner ou non. Il y a la reconnaissance des pairs, de la critique, etc. Et en fait, c'est le fondement même de la justification de l'intervention des pouvoirs publics, c'est qui va prendre le risque, finalement. Comment cette notion-là même de valeur, elle se situe au fondement de ce marché-là très très régulé.
Oui, oui, alors c'est effectivement une question fondamentale. Alors, peut-être un mot pour évoquer Howard Baker, qui est un sociologue, qui est un des grands penseurs de ces secteurs et de ces industries, et qui avait mis à mal la mythologie, la représentation qu'on pouvait se faire de la culture et de la création et de l'art, qui était ce qu'il appelait la représentation romantique. C'est-à-dire l'idée d'un individu tout seul qui crée indépendamment de toute coopération dans un seul rapport avec un au-delà, une inspiration avec un grand I, et sans aucune prise en compte des réalités matérielles ni des réalités de marché. Et ce que nous dit Baker, c'est que tout ça est complètement faux. Et tout ça est complètement faux, et ça va très très loin. Et ce qu'il dit, et ce qui est toujours très très difficile à l'entendre, mais je peux revenir avec mon Van Gogh assez rapidement, c'est qu'il n'y a pas de valeur objective à une œuvre, quelle qu'elle soit. Et donc tout le jeu de ces secteurs, c'est un, pour exister dans des marchés qui sont des marchés de l'hyperabondance, qu'on parle du livre, du cinéma, de la musique, dès que vous voulez proposer une nouvelle œuvre, bah, vous êtes dans un marché saturé, donc vous allez avoir besoin de vous distinguer, de vous différencier, ce qui est une espèce de moteur d'aiguillon assez sympathique pour fabriquer de la créativité. L'aiguillon naturel, c'est de se distinguer par la qualité et la nouveauté. L'aiguillon un peu plus fainéant, c'est d'aller mettre des moyens considérables en marketing. C'est-à-dire que vous avez votre œuvre et vous mettez un paquet d'argent, vous mobilisez un paquet de moyens pour aller faire exister votre œuvre. Alors l'exemple que j'aime beaucoup citer, hein, c'est les Dents de la Mer qui a marqué un des premiers tournants. Il y en a eu un autre, enfin il y en a eu deux ou trois autres, mais il y en a eu un autre quelques années après avec La Porte du Paradis. Les Dents de la Mer, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre façon de faire des films. C'est-à-dire qu'avant, on faisait des films, on les soignait, on travaillait le scénario. Et puis un jour, on s'est rendu compte que tout ce qui comptait, c'était... Alors, je caricature un petit peu, Les Dents de la Mer n'est pas complètement inintéressant, mais que c'était l'emballage qui comptait beaucoup plus que le contenu. Et donc, ce qu'on a fait à partir des Dents de la Mer, et c'était la notion de blockbuster, c'est de dire, on va pas s'enquiquiner énormément sur le contenu. Par contre, on va mettre le paquet sur le flacon, sur l'emballage. Et donc, on va faire une campagne de marketing monstrueuse. Et en ayant, à minima, ce qui va faire en sorte que le film va susciter l'intérêt, un pitch. Et donc, les Dents de la Mer, c'est un pitch et une campagne de communication. Et ensuite, ce que les Américains appelaient du carpet bombing, c'est-à-dire qu'on va, on va mettre le film partout pour que tout le monde ne voit que ça. Et en vous disant ça, je suis en train de perdre le fil de ce que
j'ai entendu. C'est sur cette idée, on ne sait pas vraiment comment produire de la valeur en soi, donc la notion de risque.
Et donc la tentation, et c'est un peu ce que disait Adorno, hein, la tentation quand on est un acteur qui a des contraintes économiques, hein, pas forcément un acteur qui veut faire de l'argent, quand on est un acteur qui a des contraintes économiques, la tentation c'est d'aller minimiser les risques il y a pas mal de façons de faire, en s'appuyant sur des franchises ou licences. Donc vous faites Star Wars numéro 6 parce que ça vous garantit que vous avez déjà un public, en vous appuyant sur des stars ou en faisant une campagne de communication, une campagne marketing assez considérable. Et donc tout ça va limiter l'espace pour la création, parce que quand vous voulez apporter une voix nouvelle, faire un film un petit peu différent et que vous êtes écrasé par ces immenses machines qui arrivent avec la puissance hollywoodienne, un film d'Hollywood arrive avec un marché primaire de presque 300 millions de personnes. Ça veut dire qu'il a été amorti. Ça veut dire qu'on a pu mettre beaucoup plus de moyens dans la communication. Et ça veut dire qu'à côté de ça, un film français sur un marché de 80 millions de personnes va avoir des moyens qui seront assez limités. Et donc, cette machine qui va écraser, je ne sais plus si c'est le terme qu'avait repris Joël, mais c'est la même idée, va se mettre en marche, en fait. C'est-à-dire que les cinématographies nationales vont être naturellement écrasées par ce mastodonte dominant américain.
Joël Farchi, si on voulait résumer finalement l'apport aussi de l'intervention publique, sa valeur en soi, est-ce que c'est cette idée-là que finalement, si on laisse les règles du marché entre guillemets faire, les entreprises ont nécessairement cherché quelque part à maximiser leurs profits, c'est normal, c'est ainsi que fonctionne le marché, sauf que ça ne fonctionne pas dès lors qu'il y a des enjeux de créativité, des enjeux de visibilité aussi pour les artistes. Donc en fait, les pouvoirs publics servent à cela, ils servent à minimiser le risque et donc à permettre l'éclosion de nouveaux talents, de nouveaux contenus et donc la vitalité de tout un secteur.
Oui, bien sûr, il y a une contradiction majeure entre l'efficience économique, la recherche de profit et puis le besoin de diversité culturelle parce que les consommateurs aussi veulent pas toujours la même chose. Mais je crois qu'il faut quand même bien distinguer deux choses, c'est-à-dire que si c'était uniquement par les caractéristiques structurelles des industries culturelles qu'il y avait une forte intervention publique, on devrait avoir, puisque les caractéristiques sont les mêmes dans tous les pays, on devrait avoir le même type d'intervention dans tous les pays. Donc il y a un aspect comme ça, évidemment minimisation des risques, etc. Mais il y a aussi un aspect très historique et culturel au sens large, c'est-à-dire que la France est un pays dans lequel la culture a toujours été extrêmement soutenue depuis très très longtemps, ce qui n'est pas le cas de la même façon aux États-Unis par exemple. Et donc là, il y a à la fois des arguments purement structurel et économique, de minimisation des risques, de demandes qu'on ne connaît pas, de ce qu'on disait tout à l'heure avec Caves, Nobody Knows Anything. Ça, c'est vrai. Mais après, il y a des particularités nationales qui font que certains pays vont choisir de particulièrement mettre le paquet. Il y a des particularités nationales, mais il y a aussi des particularités sectorielles. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, qui est un pays très interventionniste, on va intervenir beaucoup plus dans le domaine du cinéma depuis des décennies que dans le domaine de la musique enregistrée. La création du CNC, c'est 1946, la création du CNM, c'est-à-dire son petit frère dans la musique, ça doit avoir 4-5 ans. Donc vous voyez bien qu'après, il y a des choses qui sont assez variables selon les choix politiques qui sont faits dans un pays ou à une époque.
La concentration est l'ennemi de la création et de la liberté. Et donc, les pouvoirs publics doivent absolument veiller à une diversité, à une pluralité. Parce qu'en ce moment, quand vous regardez de près les choses, vous vous apercevez que les contrats d'engagement dans les festivals de musique augmentent. Alors, certains grands groupes peuvent payer. Malheureusement, les festivals indépendants ne peuvent pas payer. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent les prix d'entrée. Enfin, bref, il y a un phénomène inflationniste qui peut porter préjudice à une certaine vie musicale.
Thomas Paris, je voulais vous faire écouter cet extrait d'une interview de Jack Lang, le revoilà, mais cette fois-ci sur France Musique en 2018, parce qu'il évoque une autre notion, et qu'on a commencé nous-mêmes à aborder, une autre notion que celle de l'exception culturelle, c'est celle de la diversité culturelle, et je trouve ça intéressant ce glissement aussi sémantique, cette idée que ça devient peut-être de plus en plus compliqué de justifier qu'il y ait effectivement une exception culturelle française, mais que de fait on se bat au nom d'une forme de diversité. Qu'est-ce que ça nous dit, ce changement de vocabulaire ?
Oui, alors je reprends le fil de ce que disait Joël tout à l'heure. C'est effectivement au moment des négociations sur les accords du GATT que la France, qui n'était pas à l'origine de cette volonté de sortir la culture des négociations, mais qui a pris un peu la direction des opérations. Et donc, au fur et à mesure, petit à petit, l'exception culturelle qui voulait simplement dire qu'on devait sortir la culture des négociations sur la libéralisation du commerce international, est devenue, aux oreilles de tout le monde, l'exception culturelle française. Et donc là, c'est devenu un peu plus difficile à négocier, et c'est à partir de là que certains pays ont essayé de pousser une autre notion qui était la diversité, beaucoup plus positive, et qui, en toile de fond, veut dire la même chose, c'est-à-dire que l'exception est au service de la diversité. Pourquoi la culture fait exception ? Parce qu'il faut promouvoir, il faut arriver à préserver cette diversité qui n'est pas naturellement permise par ces secteurs, ces industries dans leur fonctionnement. On arrive parfois à trouver et retrouver des espaces de créativité, de liberté, de diversité, mais parfois, il y a cette tendance à la concentration, pour reprendre le terme de Jack Lang qui est naturel, va avoir une tendance naturelle à écraser aussi cette diversité.
Joël Farchi, un point pédagogique s'impose à cette étape de l'émission. On a parlé d'exception culturelle, alors qu'elle soit française ou qu'elle soit mise en place par finalement un très grand nombre de pays, chacun à sa manière, on va dire. Est-ce que, pour autant, on comprend qu'il y a une logique de souveraineté aussi, de soft power, on l'a dit, de protéger aussi tout un pan de l'industrie vis-à-vis d'une concurrence mondialisée. Est-ce que cela veut pour autant dire que l'intervention des pouvoirs publics implique qu'il n'y ait plus de concurrence dans ce secteur des industries culturelles, ou au contraire d'en générer de façon à ce que la créativité et l'innovation puissent émerger ? En fait, est-ce qu'il faut véritablement traduire subvention, régulation et intervention par protéger et faire en sorte que tout le monde survive ?
Non, mais je pense qu'il y a deux logiques, et d'ailleurs c'est dans le cinéma c'est extrêmement intéressant comment le CNC s'est construit, parce qu'il y a vraiment deux logiques totalement différentes et qui se complètent et qui font une sorte de dialectique. C'est-à-dire que d'un côté il y a une logique qui est une logique de soutien à la diversité, aux prototypes, à des œuvres un peu, on appelle ça parfois des œuvres fragiles, c'est-à-dire des œuvres qui ne pourraient pas trouver leur marché tout seules, mais qui peut-être seront les chefs-d'œuvre du patrimoine de demain. Donc on les soutient pour cette raison-là. Et puis, il y a une autre forme dont on a parlé tout à l'heure, c'est de soutien via, on veut une industrie concurrentielle. Et là, les deux choses peuvent parfois rentrer en contradiction, bien évidemment, mais ce qui est important, c'est de tenir toujours les deux bouts. C'est-à-dire que il faut à la fois promouvoir une industrie qui est concurrentielle, par exemple, par rapport à l'industrie hollywoodienne, et puis en même temps, faire des films qui ne sont pas forcément des films hollywoodiens. Parce que si c'est les Européens qui font des films comme les Hollywoodiens, on n'a rien gagné. On a gagné en termes industriels, mais on n'a rien gagné en termes de diversité. Donc la diversité, ça doit être la diversité des œuvres, ça doit être la diversité des talents. Et elle doit s'appuyer sur une industrie, mais c'est parfois un peu compliqué à gérer les deux.
Thomas Paris, vous souhaitez réagir sur cette question de la concurrence ?
Je pense qu'on touche à un des sujets clés de ces questions de industrie culturelle, intervention publique, la concurrence. En fait, de facto, on a fait un choix civilisationnel de dire la création est ouverte à tous. C'est le modèle dans lequel on baigne depuis des siècles, qui est à peu près le contraire d'un modèle dans lequel on élirait, on choisirait, on permettrait à des individus de passer des concours pour devenir des créateurs fonctionnaires à vie. C'est pas le modèle qu'on a choisi. On s'est engagé collectivement, et personne ne remettra en cause, dans un modèle dans lequel n'importe qui peut avoir la possibilité de créer une œuvre, de créer une entreprise de production, de créer un festival, etc. Et d'une certaine manière, c'est sain. Mais ça se traduit par quelque chose, par un marché, pardon pour prendre ce terme, qui est hyper compétitif. Je parlais d'abondance tout à l'heure, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre le fonctionnement de ces secteurs, des industries culturelles, voire des industries créatives en général, sans admettre qu'il y a une forme d'hyper-compétition. Et donc, qui dit hyper-compétition, avec un phénomène qui va avec, c'est, il y a aussi une forme de concentration assez naturelle de la consommation.
Mais Thomas Paris, ce serait une compétition qui s'ancrerait davantage sur les enjeux de visibilité, plus que vraiment de production.
Sur les enjeux de visibilité, oui, sur les enjeux de visibilité.
Parce que le soutien financier.
Et bon, avec le numérique, et Joël c'est ça très bien, mais que les barrières à l'entrée ont été assez largement abaissées. C'est-à-dire que si moi, demain, je décide d'être musicien, je suis musicien et ma musique est disponible. Et donc, je rentre dans ce jeu de l'hyper-compétition. Et donc, pour reboucler sur ce que vous disiez, c'est le choix qu'on a fait. Mais de facto, ça se traduit par plusieurs phénomènes. Le premier, c'est que tout le monde n'a pas la garantie de pouvoir vivre de son art.
Parce que les fonds ne sont pas infinis non plus.
Et le deuxième, c'est qu'à partir du moment où on permet à des gens de rentrer, à des nouveaux artistes, et il en arrive chaque année, et c'est très très bien, de facto, à partir du moment où il y a une intervention publique, sauf à envisager une intervention publique qui soit hyper inflationniste, de facto, il y a des gens qui vont se retrouver dans une fragilité. Et donc, on est dans un système qui entretient une forme de fragilité. Et malheureusement, il n'y a pas de meilleur système, sauf à abandonner complètement ce système ouvert pour revenir à un système dans lequel les créateurs sont des fonctionnaires qui passent des concours et qui ont le droit de créer durant toute leur vie et qui seront dans une espèce de monopole protégé.
Ce qui est assez optimiste sur la notion de créativité.
Dans certains pays, à certaines époques, ça existait, et ça n'a pas produit que des choses inintéressantes. Mais ce n'est pas le choix qu'on a fait.
On le comprend, en tout cas, ce phénomène d'hyper-compétitivité, d'hyper-compétition aussi au sein de ces industries culturelles structurent désormais la donne. Et puis, vous l'avez dit, Thomas Paris, le numérique a aussi profondément changé cette fameuse donne, cette compétition aussi, cette capacité, cette possibilité de recevoir une forme de visibilité. On en parle dans quelques instants. La bande originale du film The Brutalist de Brady Corbet, sorti en février de cette année, qui avait beaucoup fait réagir en raison de son utilisation de l'intelligence artificielle. Et il est vrai que l'arrivée de nouveaux outils a profondément bouleversé les industries culturelles, industries culturelles que nous cherchons aujourd'hui à définir dans Entendez-vous l'écho. Et nous sommes toujours en compagnie des économistes Thomas Paris et Joël Farchi. Joël Farchi qui est avec nous à distance depuis les studios de la RTBF, je le rappelle. Alors je voudrais vous faire écouter Joël Farchi, car je sais que ce sont des sujets sur lesquels vous vous êtes largement penché. Je voudrais vous faire écouter le président, le directeur général de la SACD, Pascal Rogard, qui faisait un état des lieux justement de la façon dont le numérique et à plus forte raison l'intelligence artificielle générative avait changé la donne. C'était le 12 février dernier au micro de France Culture.
Il faut savoir qu'ils utilisent un mot qui me choque, moi. Ils disent « on moissonne l'Internet ». Or, quand vous êtes un bon agriculteur, vous moissonnez votre champ. Si vous allez moissonner le champ du voisin, vous êtes un voleur. Voilà. Et donc, actuellement, on a affaire à une bande de voleurs qui volent les données culturelles et qui font des fortunes, puisqu'on voit bien qu'il y a une spéculation qui, d'ailleurs, est retombée il y a 3 jours autour de l'IA. Nous ne voulons pas empêcher le développement de l'IA. Nous pensons que c'est important que l'IA se développe, même si elle va supprimer les emplois. Mais nous voulons qu'elle le fasse en respectant les règles. Donc ce qui est assez choquant dans cette affaire, c'est que vous allez utiliser des données de créateurs pour supprimer les emplois de créateurs. Et nous, on va intervenir justement auprès des autorités, par exemple le Centre National du Cinéma, qui aide toutes les créations cinématographiques et audiovisuelles, pour ce que l'intensité de l'aide soit modulée en fonction du facteur humain. Donc, je pense qu'on peut parfaitement faire fonctionner le cadre normal du droit d'auteur. Le cadre normal, c'est vous utilisez des répertoires, des œuvres, et vous demandez les autorisations et vous versez une rémunération.
Joël Farchi, le numérique, c'est beaucoup de choses. Ça a d'abord été des capacités de stockage étendues, une capacité aussi à échanger rapidement des fichiers de pair à pair. Et puis aujourd'hui, c'est évidemment cet enjeu aussi de la création et de la valeur de cette création telle qu'elle est générée par l'intelligence artificielle. On parlait du problème de l'incertitude finalement de ce qui était créé, de quelle offre pour quelle demande. Comment l'intelligence artificielle vient rebattre ces cartes-là et comment finalement c'est cette question de la créativité et de qui est à l'origine de cette créativité qui est de nouveau mise sur la table. Alors, il y a plusieurs choses parce que, effectivement, l'IA, elle pose au moins trois problèmes, enfin même peut-être plus, mais au moins trois problèmes. Le premier problème, c'est que l'IA, c'est un outil pour les créateurs, et donc ça vient rebattre les cartes de la créativité, comme n'importe quelle nouvelle technique, qui fait qu'il y a des enjeux de formation, notamment, et de fait, de s'approprier, comme on s'est approprié tous les ordinateurs il y a une trentaine d'années, ça va devenir un outil dont tout le monde se servira, et donc certains seront s'en servir très bien, d'autres beaucoup moins bien. Donc il y a ce premier enjeu qui est l'outil, un outil au service de la créativité. Il y a un deuxième enjeu qui est ce que disait Pascal Rogard à l'instant, qui est qu'est-ce qu'on fait avec les systèmes d'IA qui se nourrissent d'œuvres protégées. Et puis il y a un troisième sujet que vous évoquiez plus dans votre question, si je comprends bien, celui autour de l'incertitude, c'est que l'IA, elle produit des œuvres, ou des quasi-œuvres, ce qu'on pourrait appeler des quasi-œuvres, parce que œuvre, c'est un peu peut-être trop, des quasi-œuvres qui sont ce qu'on appelle des œuvres synthétiques, c'est-à-dire des choses qui sont créées directement par l'IA. Et donc, sur l'incertitude, on voit bien qu'on renvoie à des choses sur tous les débats qu'il y a aujourd'hui autour des deepfakes, par exemple. Est-ce que il faut informer, vous parliez du brutaliste tout à l'heure et de cette voix qui avait été modifiée pour prendre un accent, pour que les acteurs aient un accent meilleur, en hongrois, hein, je crois que c'était.
Exactement.
Bon, donc, est-ce que ça pose un problème? Ça pose un problème, deux problèmes assez différents, je crois. Il y a un premier problème qui est un problème de consentement, c'est-à-dire de savoir si les artistes concernés, quand on utilise leur voix, leur visage, etc., ont été sollicités.
Voilà.
Et puis pour le coup il n'y a pas tellement de débat à mon avis. Oui, bien sûr, il faut du consentement. Et puis un autre truc sur lequel moi je suis plus ambiguë, c'est par rapport aux spectateurs. Parce que la question qu'il y avait eu avec The Brutalist m'a conduit à me poser beaucoup de questions, puisque autant sur tout ce qui est fake news, par exemple, quand il s'agit d'informations, c'est évidemment essentiel que le spectateur soit informé de ce qui est trafiqué, de ce qui n'est pas trafiqué. Mais quand on parle de cinéma, le cinéma, par définition, c'est quelque chose de faux. C'est du trucage, c'est faux. Quand on tue quelqu'un, ça n'existe pas vraiment. Quand on fait l'amour avec quelqu'un, ça n'existe pas vraiment. Donc à partir de quel moment il faut dire au spectateur ceci a été fait par de l'IA ou ceci n'a pas été fait par de l'IA? Là, je trouve que c'est vraiment un débat sur lequel j'ai pas encore d'avis bien confirmé.
Et ce sont de toute façon des débats qui sont en cours. Thomas Paris, il y a l'intelligence artificielle, c'est une chose. Il y a l'arrivée du numérique de façon plus générale. On pourrait parler des plateformes de streaming, on pourrait parler de toutes les possibilités qu'il y a de consommer finalement tous les contenus et d'en produire aussi. On pourrait se dire c'est super, ça nous permet de trancher sur la question dont on débattait avant l'extrait musical. Ça nous permet de dire que c'est le public qui va choisir, puisque face à une abondance d'offres et puis face à une diffusion très très facilitée aussi par les plateformes de streaming, le public va être totalement maître et pour le coup une demande va véritablement émerger sur ce marché de la culture. Est-ce qu'il faut s'en réjouir pour autant?
Alors bon, s'en réjouir, maintenant le numérique est là, est bien là, mais effectivement, quand il est arrivé, il y avait cette espèce de fantasme de désintermédiation. Enfin, les créateurs allaient être tout seuls face à leur public. On a même identifié des filières courtes, des gens qui passaient outre les canaux traditionnels. Et puis on s'est rendu compte que la valeur quand même était créée par ces différents intervenants qu'on a évoqués, qui sont des éditeurs, des producteurs, des labels, etc. Et donc que cette notion de filière courte... Bon, tenez pas forcément la route très très longtemps, et ma conviction c'est qu'avec l'IA se passe à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'éclairage aujourd'hui sur des pseudo-œuvres ou des quasi-œuvres, comme dit Joël, produites par l'IA. Quand on en produira à l'appel, plus personne ne les verra. Mais c'est un autre sujet. Par contre, le numérique, là où il a bouleversé la donne, et effectivement ça va rejoindre la problématique de l'IA, c'est qu'il a déplacé le curseur de la visibilité. C'est-à-dire qu'avant, il fallait montrer patte blanche à un éditeur, à un label, un producteur, pour pouvoir arriver à exister sur le marché. Et après, vous étiez dans une espèce d'environnement un peu protégé. Aujourd'hui, le fait d'être visible ne vous protège pas. Et donc, ça va modifier tous les enjeux qui vont se déplacer autour de la visibilité, et paradoxalement, ce que j'évoquais tout à l'heure en début d'émission, cette visibilité va devenir de plus en plus coûteuse, parce qu'il y a de plus en plus de monde. Et donc ça va, sans doute, c'est ce qui se passe, et l'IA va renforcer ça, parce qu'elle va permettre de produire des contenus de promotion pour les œuvres, et elle va encore rendre beaucoup plus cher le coût de la visibilité, ce qui va donner beaucoup plus de potentiel et de pouvoir aux acteurs économiques les plus importants.
Et on pourrait se dire que c'est la nouvelle mission aussi pour les pouvoirs publics, notamment en termes de régulation.
Moi, c'est l'enjeu principal, il est là. C'est-à-dire, c'est comment on et la question de l'IA, c'est comment on régule les rapports entre producteurs de contenu, offreurs de contenu et plateformes d'IA. C'est à peu près la même question qui se pose entre producteurs de contenu et plateformes de consommation massive et de demande.
Et de ce point de vue-là, l'Union européenne est mobilisée. On pourrait se dire que le service de médias audiovisuels de 2018 tente aussi d'œuvrer en ce sens. Un grand merci à tous les deux, Thomas Paris et Joël Farchi, d'avoir participé à cette émission. Toutes les références de vos ouvrages seront disponibles sur la page d'Entendez-vous l'écho sur France Culture, où cette émission est aussi disponible à la réécoute.